Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette édition sabbatique, voyager par voie routière entre Kiwanja et Kanyabayonga au nord Kivu comporte des risques ces jours-ci. Des hommes armés opérant dans cette zone contrôlée par les rebelles du M23 constituent désormais un véritable danger pour le voyageur. Dans ce journal, nous parlerons de l'inquiétude des élèves et écoliers de la ville de Butembo au nord Kivu. À l'approche de la rentrée scolaire, l'état insalubre des toilettes dans leurs établissements est au cœur de leurs préoccupations. Être défenseur des droits de l'homme en RDC, c'est accepter de courir des risques, mais pas n'importe lesquels, car certains peuvent être anticipés. Mais comment y parvenir? Notre invité Janvier Mourahiri apportera des réponses. Comme nous l'avons signalé au sommaire, la situation sécuritaire continue de se détériorer sur les tronçons routiers Kiwanja-Kanyabayonga au nord Kivu. Cet axe situé sur la route nationale numéro 2 est régulièrement le théâtre d'attaques armées et d'enlèvements de voyageurs. Les derniers incidents en date est survenu vendredi. Des hommes armés ont enlevé 6 personnes avant de les conduire vers une destination inconnue dans cette partie du territoire de Rutshuru. Cet incident s'ajoute à d'autres recensés dans cette entité contrôlée par le rebelle du M23. Bernadette Nyangui nous fournit les détails sur les derniers incidents.
Selon des sources locales, le dernier incident s'est produit vers 14h20 hier vendredi à hauteur de Mabenga. Les 6 victimes voyageaient à bord d'un minibus de transport en commun assurant la liaison Butembo-Goma. Jusqu'à ce samedi matin, leur sort serait inconnu. Les autres passagers du véhicule ont été contraints d'abandonner leurs biens aux assaillants avant de poursuivre leur route. Cet enlèvement intervient après plusieurs incidents similaires enregistrés ces dernières semaines. Le 9 août dernier, 3 personnes, dont 2 conducteurs de mototaxi et leurs clients, avaient été enlevés sur l'axe Vichumbi. Quelques jours plus tôt, 2 motocyclistes avaient été tués entre Mabenga et Kiwanja, tandis que 3 autres personnes avaient été emmenées de force dans la brousse vers Kaunga. D'après la société civile locale, au moins 14 personnes au total ont été victimes d'attaques attribuées aux coupeurs de route depuis le début du mois d'août courant. Les organisations citoyennes dénoncent la persistance de l'insécurité sur les axes Goma-Butembo et Vichumbi-Ruindi-Kibirizi. Elles appellent au démantèlement des réseaux responsables de ces attaques dans cette zone du parc national de Virunga.
Parlons de cette bonne nouvelle où les populations déplacées des guerres de Boulé commencent à regagner leurs habitations dans les territoires de Djougou à Nitouri. Ces personnes victimes des combats répétés entre le FARDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP répondent à l'appel lancé mercredi dernier par le gouverneur de province lors de sa visite dans cette agglomération. Dans le même temps, la MONUSCO intensifie ses patrouilles afin de renforcer la protection des civils. Isaac Remouyopé s'est intéressé à ces mouvements de retour et nous propose ces reportages.
Plus de 50 000 habitants de Boulé sont installés depuis environ 9 mois au site des déplacés de la plaine des Savo, située à 5 km de leur domicile. Depuis mercredi dernier, un retour timide et progressif de ces déplacés est observé vers Boulé. Ils répondent ainsi à l'appel du gouverneur de province qui les a rassurés sur les garanties de sécurité lors de sa visite dans cette agglomération. Ce mouvement de retour est également encouragé par la présence de la MONUSCO, dont les casques bleus effectuent des patrouilles pour assurer la protection des civils. Mais à leur arrivée, certains habitants ont découvert leurs maisons détruites ou leurs biens pillés. Ils demandent l'accompagnement du gouvernement et l'appui des organisations humanitaires pour faciliter leur insertion et leur réinsertion sociale. Selon des sources locales, une certaine méfiance persiste également entre une partie de la population et les FARDC accusés de certaines violations des droits humains. Cette situation contribue à la réticence de certains déplacés à regagner leur domicile. À cela s'ajoute la présence d'engins explosifs. Des engins ont notamment été découverts jeudi dernier dans le centre de Boulé. Les habitants appellent les autorités à procéder au déminage de la zone afin de réduire les risques liés à ces engins explosifs et de permettre un retour sécurisé des populations déplacées. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons toujours à Nitouri, mais cette fois nous partons à Tchomia, où d'anciens combattants démobilisés se retrouvent en première ligne dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Une dizaine d'entre eux sensibilisent le membre de la communauté au respect des mesures barrières afin de contribuer à la réduction du nombre d'infections. Cette initiative est portée par Hope for Peace and Development HPD et le réseau Association pour le développement durable, RAD ASBL, avec l'appui financier de la MONUSCO DDR en soutien au PDDRCS. Des précisions avec Jean-Claude Lokidile.
À Tchoumia, une entité située à 65 km de Bounia, 32 mobilisateurs sont engagés dans la prévention et la lutte contre Ebola. Parmi eux, 27 sont d'anciens combattants démobilisés bénéficiaires du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDCS. Depuis leur déploiement, ils sillonnent plusieurs endroits très fréquentés de Tchoumia, notamment le marché central, le centre-ville, ainsi que le restaurant face aux habitants. Ils insistent notamment sur le lavage régulier des mains, la détection précoce des cas suspects et la nécessité de signaler rapidement toute personne présentant des signes suspects au service de santé. Florent Zama, elle est responsable de l'ONG, Réseau des associations pour le développement durable.
Les sensibilisateurs diffusent des bonnes pratiques pour prévenir Ebola, ce qui réduit les risques de contamination et encourage les signalements rapides des cas suspects. Et deuxièmement, elle favorise aussi la réinsertion des ex-combattants, car ceux-ci participent à une activité utile pour la communauté et avec cela, ils acquièrent de nouvelles compétences. Ils travaillent avec les populations, ils sont perçus comme des acteurs de développement plutôt que comme des anciens combattants.
Pour la MONUSCO et ses partenaires, cette initiative met en avant le rôle que peuvent jouer les anciens combattants dans leur communauté après leur démobilisation. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Au Nord-Kivu, à 3 semaines de la rentrée des classes, l'état des toilettes dans plusieurs écoles de Butembo laisse à désirer. Dans une région marquée par des épidémies, les élèves se disent inquiets. Craignant notamment les risques d'infection, ils appellent le responsable de leurs écoles à procéder d'urgence à la remise en état de ces installations avant la reprise de la rentrée scolaire. Martial Papimukeba les a rencontrés et nous propose ses reportages.
Des écoles avec des latrines délabrées, insuffisantes ou insalubres. C'est le constat dressé par les élèves dans plusieurs établissements de Butembo. Ils appellent les autorités, les responsables d'école et les organisations internationales à intervenir avant la rentrée scolaire prévue début septembre. Leur coordonnateur, Alexis Maliabwana, estime que l'urgence est d'autant plus que grande dans le contexte actuel de la maladie à virus Ebola.
Au nom des élèves, élèves et écoliers de la ville de Butembo, nous sommes en train de sensibiliser les écoles à profiter de ces temps de vacances pour la construction ou la réhabilitation des latrines scolaires. Plusieurs écoles, soit la majorité de certaines écoles dans notre ville de Butembo, les toilettes sont tellement insalubres. D'ailleurs, dans un contexte marqué par la maladie à virus Ebola, la construction des latrines scolaires devient une urgence. Nous appelons les autorités, les gestionnaires des établissements, les organisations internationale à s'y vestir.
Certains responsables d'école interrogés reconnaissent la situation mais évoquent le manque de moyens pour construire des latrines adaptées. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Quittons le Nord Kivu pour les Maniema où l'on parle également de la préparation de la rentrée scolaire. Dans plusieurs familles de cette partie du pays, les parents s'activent pour réunir le moyen nécessaire à l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants en prélude de cette rentrée des classes. Cependant, on observe parallèlement l'implication de nombreux enfants dans les petits commerces. Selon les constats de notre radio, plusieurs d'entre eux sillonnent quotidiennement les rues de la ville, là je parle des Kindu, à la recherche des clients pour écouler diverses marchandises appartenant à leurs parents. Une situation dénoncée par les organisations de défense des droits de l'enfant. Florence Kizalunga.
Chaque jour, sur les principales acteurs de la ville, des jeunes enfants, filles et garçons, circulent avec des bassins de marchandises sur la tête. Bananes, beignets, arachides et autres produits sont proposés aux passants. Approchés par notre rédaction, plusieurs de ces enfants expliquent qu'ils cherchent à contribuer à l'achat de leurs fournitures scolaires à quelques semaines de la reprise des cours.
Si j'ai fait ce commerce, c'est parce que mes parents n'ont pas assez de moyens. Je sillonne dans la ville avec mes objets afin de trouver l'argent pour m'acheter les fournitures scolaires.
Pour Madame Jeanne, faire participer plusieurs de ses enfants à cette activité est une stratégie qui permet de vendre davantage et d'augmenter les revenus du ménage.
Je fais ce commerce avec mes enfants, c'est pour me faciliter la tâche. Si j'envoie l'un à l'est, l'autre à l'ouest, le soir on va se retrouver avec une enveloppe consistante et cela va m'aider à préparer les rentrées.
Une pratique dénoncée par les organisations de défense des droits de l'enfant. Leur responsable appelle le parents gouvernement à y renoncer, rappelant que l'exploitation commerciale des enfants est interdite et punie par la loi. Selon eux, il revient aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants et non à ces derniers de porter la responsabilité financière de leur scolarité. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
19h passé des 10 minutes, nous sommes à Uvira. Les jeunes de la ville d'Uvira, durement impactés par les conséquences de la guerre dans l'est du pays, disposent désormais d'un centre d'encadrement et de formation à la création d'emplois. Inauguré jeudi, le centre d'incubation des jeunes entrepreneurs d'Uvira se veut une réponse à la problématique du chômage et à la lutte contre les antivaleurs. Pour le directeur exécutif de l'ONG Youth Leaders Mutual for Peace Building, cette infrastructure qui bénéficie de l'appui du ministère de l'Entrepreneuriat devrait contribuer à réduire les chômages et les actes d'insécurité et dans la ville. Good luck, héritier Kubandika, revient sur les contextes de la création de ces centres au micro de Radio Kapi.
La majorité de la jeunesse se livre dans des antivaleurs parce que il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas de boulot. Maintenant, quand ils voient qu'il n'y a pas ces moyens, la majorité de la jeunesse se dirige vers des groupes armés, des antivaleurs, des kidnappings, des vols, des tueries. Et ça fait que la situation sécuritaire se dégrade du jour le jour à Uvira et la province décide qu'ils vont en général. Alors, ce centre va permettre à ce que les jeunes commence à être encadré, formé et être formé à la création d'emplois pour permettre à ce que nous puissions passer à la phase de l'employabilité, créer de l'emploi pour les autres jeunes. Nous serons formés, nous serons accompagnés, nous serons même financés pour des activités ou pour des projets qui peuvent être à impact visible dans notre communauté afin de lutter contre le chômage et créer beaucoup d'emplois dans la ville. Et ça ne sera pas seulement dans la ville d'Uvira ou le territoire d'Uvira, on va partir dans notre territoire de la province de Sidi.
Nous partons également dans une autre province où environ 5000 enfants âgés de 0 à 90 jours sont sur le point d'être protégés contre les risques d'apatridie dans les territoires des Congolos dans la province d'Itanganyika. Ces enfants bénéficient d'une campagne gratuite d'enregistrement à l'état civil lancée il y a deux jours. Les chefs de division provinciale de l'intérieur d'Itanganyika, Expedi Yumba, explique l'importance de cette opération dans cet extrait sélectionné par Paul Mounanga.
Lorsqu'un enfant n'est pas enregistré à l'état civil, il risque de tomber dans l'apatridie. Et comme vous le savez, l'enregistrement est gratuit dans les délais de 90 jours. Dépasser les 90 jours, l'enfant ou bien les parents seront obligés de passer au tribunal pour enfants ou bien au tribunal de paix pour les jugements supplétifs. Vous savez que l'acte de naissance est très important sur le plan juridique. Ça donne la nationalité à l'enfant, l'identité même. Et aussi, l'acte de naissance donne à l'enfant les droits. Droit à l'éducation, droit à la santé. Ça permet aussi à l'enfant de se déplacer d'une province à une autre, même dans les territoires. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a plusieurs barrières qui sont érigées au long de la route qui mènent par exemple des Congolais jusqu'à Nyuns. Tu ne peux pas passer avec l'enfant si l'enfant n'a pas un acte de naissance. Aujourd'hui, même à Kalemie, on commence même à demander les actes de naissance au niveau maternel. Raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser les parents, de faire en sorte que chaque enfant qui naisse puisse être enregistré à l'état civil.
Les agents de la société minière de Bakwangamiba, impayés depuis 8 mois, ne décollèrent pas. Ils multiplient les manifestations pour réclamer les paiements de leurs arriérés et des salaires. Après les sit-ins organisés mardi, ils se sont de nouveau mobilisés vendredi, cette fois en bloquant l'accès au bureau des cadres de cette entreprise publique. Des précisions avec Esther Dalafine.
La semaine a été rythmée par deux mouvements de protestation menés par les agents et travailleurs de la société minière de Bakwanga. Ce vendredi, ils ont brûlé des pneus à l'entrée du polygone minier au niveau de la porte de Bouzala afin d'empêcher tout accès au site. Le polygone minier, situé au sud de Mbujimayi, constitue le cœur opérationnel de la MIBA. Il s'étend sur plus de 45 km² et abrite près de 66 millions de carats de réserves stratégiques certifiées. Ce périmètre comprend plusieurs gisements diamantifères, dont 13 à 14 massifs de kimberlite ayant fait l'objet de sondages géologiques il y a environ 4 ans par la société Geostat. Mardi dernier, un autre sit-in avait déjà paralysé la direction générale de la MIBA où les cadres avaient été empêchés d'accéder à leur bureau. Les agents réclament le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire de janvier à août 2026 ainsi que la relance effective de l'entreprise. Ils évoquent également plus de 200 mois d'arriérés accumulés au cours des années précédentes. Les travailleurs demandent enfin des éclaircissements sur les 50 millions de dollars annoncés par le chef de l'État pour la relance de la MIBA. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'armée ukrainienne a frappé une usine de fabrication de composants de l'industrie satellitaire et des missiles russes dans la ville de Samara, a annoncé samedi le président Volodymyr Zelensky. Le maire de Samara, Ivan Noskov, a fait état d'un peu plus tôt d'une attaque massive qui avait provoqué, selon lui, des dégâts localisés.
L'invité.
Notre invité est Janvier Mouraïri, président de l'Association pour le développement des initiatives paysannes, ASODIP. Il revient sur la formation des défenseurs des droits de l'homme qui s'est tenue à Kalemie. Selon lui, les acteurs de droits de l'homme exercent souvent dans un contexte complexe et dangereux. Il est donc question de les outiller, notamment sur la manière de travailler efficacement sur les terrains. Janvier Mouraïri s'entretient avec Paul Mounanga.
Monsieur Janvier Mouraïri, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre association a organisé un atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits de l'homme. Quelles sont les matières qui ont fait l'objet de cette activité?
L'atelier a porté essentiellement sur la récolte des informations sur les droits humains et l'analyse, le plaidoyer aussi par rapport aux questions des droits humains. Mais également, nous avons traité des questions portant sur la sécurité des défenseurs des droits humains et la sécurité physique et numérique. Parce qu'en fait, les défenseurs des droits humains, ils travaillent dans un contexte assez complexe. Alors, ils doivent se munir des défenses assez importante pour mener à bien leurs actions de monitoring, d'analyse et de plaidoyer au niveau local.
Comment un activiste des droits de l'homme peut collecter les informations sur les violations des droits humains s'il se trouve sur le terrain?
C'est effectivement de ça qu'il s'est agi. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs méthodologies, non, de récolte de données. Il y a l'observation, il y a certains outils qui peuvent être utilisés, comme des fiches d'enquête par exemple, mais il y a aussi des outils numériques qui peuvent être utilisés pour récolter les informations et les bonnes. Mais l'essentiel n'est pas seulement de récolter les informations, il faut avoir la capacité de les analyser, de les trianguler, de les corroborer en interrogeant en même temps plusieurs sources. Parce qu'en effet, lorsqu'on veut faire un plaidoyer sur les questions des droits humains, on doit avoir des informations vérifiées et des évidences. Et donc, les acteurs de la société civile notamment doivent vraiment être suffisamment informés pour récolter des informations qui ne peuvent pas être éclaboussés par ceux-là qui doivent apporter des solutions à la question.
Vous venez d'évoquer la problématique de la sécurité des acteurs des droits de l'homme. Comment est-ce qu'un acteur des droits de l'homme peut se sécuriser physiquement et numériquement?
Bon, vous savez que nous avons un principe, c'est que nous avons besoin des activistes des droits humains héros vivants, pas des activistes des droits humains héros morts. Et donc, il est important que sur le plan personnel, l'acteur de la société civile ou les défenseurs des droits humains, comme c'est de ça qu'il s'agit, puissent, n'est-ce pas, se protéger non seulement sur le plan physique, mais aussi sur les outils qu'il peut éventuellement utiliser. Parce que s'il utilise mal les outils, ça peut non seulement risquer à créer des soucis à lui-même, mais aussi aux victimes et même à toutes les sources d'informations. Donc c'est important quand même que les activistes soient suffisamment outillés pour pouvoir se protéger, protéger les autres.
Les participants ont été aussi outillés sur la communication sécurisée. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Les questions des droits humains, ce sont des questions assez sensibles, non? Donc lorsque un défenseur des droits humains communique sur ces questions-là, il doit tout faire pour pouvoir se protéger, protéger les autres, comme je venais de le dire. Aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux et il y a toutes sortes d'informations qui se passent là. Il y a des communications qui se passent via beaucoup d'applications et donc c'est toujours important que l'on cherche à utiliser des applications, des réseaux sociaux qui sont assez sécurisés pour également sécuriser non seulement sa personne, mais aussi toutes les autres personnes qui interviennent sur la chaîne de l'information.
Quelles sont les difficultés auxquelles font face souvent les activistes de défense des droits de l'homme lorsqu'ils se retrouvent sur le terrain?
Il n'y a pas de violation des droits humains sans auteur, non? Alors, les auteurs de ces violations sont en fait une menace existentielle, non? À l'endroit des défenseurs des droits humains, c'est-à-dire ils peuvent commettre même l'irréparable, non? Il y a beaucoup de risques d'arrestation, des risques d'intimidation, des tracasseries et tout ça, l'activiste des droits humains ou les défenseurs doit en être conscient. C'est vraiment très important et il doit travailler avec professionnalisme parce que quand il travaille avec professionnalisme dans le respect de la loi, eh bien, il est protégé, il se protège lui-même. L'activiste des droits humains doit être aussi informé sur différents instruments juridiques nationaux et internationaux qui protègent en fait le travail des défenseurs des droits humains. Et s'il travaille dans ce sens-là, je crois qu'il se met, à mon avis, à l'abri de toutes sortes d'intimidations et ça peut l'aider à mitiguer les risques en effet.
Monsieur Janvier Mourahiri, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
À 19h passé de 20 minutes, à Epoulou, nous vous remercions d'avoir suivi cette édition du journal. Ronéline Thibonera Idiamine, c'est moi. Merci à Jessen Siala qui nous avait mis en onde.